retrouver l'été dernier nous, vos enfants peut-être sont repartis vers les chemins de l'école. Ben nous, on était là cet été tranquillement, donc la reprise est un petit peu moins dure pour nous. Bonjour David Torchala.
Oui, bonjour Philippe, c'est vrai qu'on était là, on est parti un petit peu quand même pour vacances, mais c'est vrai qu'on a tenu l'antenne tout l'été.
Voilà, on était là avec vous et ça a été un plaisir de passer cet été en votre compagnie, donc c'est la rentrée sur Radio Présence. Je crois, mon cher David, que une personne qu'on aime bien à Lourdes, Bernadette Soubirous, va être à l'honneur aujourd'hui.
Ah oui, elle va être à l'honneur. J'ai plein de choses à vous dire sur l'actualité de Bernadette Soubirous. Elle a de l'actualité, Bernadette, toujours.
Exactement.
Et encore.
Exactement. Et puis quelqu'un qu'on aime bien aussi à Radio Présence, il est chef d'établissement, c'est Jean-Marc Courtade, puisque c'est la rentrée, on l'a dit, pour les enfants. Et on ira faire un petit tour pour savoir comment s'est passée cette rentrée, celle des professeurs, parce qu'ils rentrent toujours un petit peu avant, eux, c'est le vendredi, et puis ceux des élèves, puisque Jean-Marc Courtade est chef d'établissement de plusieurs établissements. Le site du Prado, avec une école maternelle élémentaire. Le site Saint-Joseph à Aussun, une école maternelle élémentaire. Mais également le site de la Cède et le site Saint-Pierre, qui est un lycée professionnel. On fera le point avec lui d'ici quelques instants. Et puis, quelqu'un aussi qui était en votre compagnie pour la fête du livre au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, c'est Michel Coll.
Oui, Michel Coll, grand journaliste et spécialiste de l'information religieuse. Oui, j'ai eu le plaisir de l'accueillir dans notre émission pendant la fête du livre. Mais oui, évidemment, il est aussi venu parler en studio de l'amour qu'il porte pour Lourdes.
Voilà, il sera donc l'invité de Mathias Terrier dans le magazine de Passage à Lourdes. On vous retrouve le temps d'un jingle et puis on parle de Bernadette.
Présence à Saint-Aventin, 94.
Alors, on le disait, David Torchala, dans l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, nous allons mettre à l'honneur Bernadette Soubirous.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu, en fait, il y a plusieurs événements autour de Bernadette. D'abord, c'était samedi, en fin d'après-midi à 16h, une très belle inauguration de la rue de l'église et la place de l'église dans le centre-ville de Lourdes. Vous savez, c'est la paroisse du Sacré-Cœur accueille beaucoup de pèlerins parce que bien sûr qu'on vient vivre son pèlerinage dans le sanctuaire, mais les pèlerins sont aussi invités à traverser la ville pour aller voir les lieux où Bernadette a vécu, le moulin de Boli, le cachot, et puis il y a aussi évidemment cette église paroissiale avec notamment les fonts baptismaux, là où Bernadette a été baptisée. Et bien la municipalité aidée par la région, le département, la communauté d'agglomération, la Fondation du patrimoine et puis notamment aussi l'association Le Toit du Cœur. Oui. Voilà, c'est ces paroissiens qui se sont organisés en association pour soutenir la paroisse de Lourdes et puis pour particulièrement rénover cette paroisse du Sacré-Cœur. Eh bien, tout le monde était là à la fête et quelque part un peu en grande pompe pour inaugurer l'extérieur de cette église que l'on aime tous et particulièrement les Lourdes, avec tout un aménagement paysager. Il y avait l'évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika, était présent, le recteur du sanctuaire, beaucoup de chapelains aussi. Et Monseigneur Mika a notamment dévoilé cette nouvelle statue de Bernadette Soubirous devant l'église paroissiale du Sacré-Cœur, assez réussi. Et puis une place avec une belle fontaine, des cafés, etc. C'est vraiment, on entend souvent ça dire, il faut remettre l'église au centre du village. Bon, écoutez, à Lourdes, en tout cas, elle est là. Elle est là depuis longtemps et en tout cas c'est toute une vie aussi qui vient s'articuler pour un bon vivre aussi autour de cette place. Et puis ça a été l'occasion aussi pour Monseigneur Jean-Marc Mika de donner quelques coups de crosse sur la porte de l'église pour ouvrir solennellement et réinaugurer en tout cas l'intérieur de cette église. Vous savez que c'est plus de 5,5 millions d'euros qui ont été investis avec de l'argent public, j'ai pu le citer, et puis aussi avec de nombreux mécènes et généreux donateurs, des artistes, des bénévoles donc on s'est fédéré avec grand talent et c'est l'occasion de saluer tous les membres du Toit du Cœur et pour
arriver au bout,
les travaux ont été gigantesques il a fallu consolider la structure, la nef, le transept, le cœur, rénover la toiture, l'électricité, la sécurité. Il y avait tout à faire, installer un chauffage performant, une sonorisation aussi avec un nouvel éclairage d'art, parce qu'il y a de très belles œuvres qui ont été aussi en commande et qui sont à l'intérieur de cette très belle église. Il a fallu restaurer la crypte, les chapelles latérales, la chapelle funéraire, il a fallu transférer l'orgue en tribune, mettre en lumière les fonts baptismaux, tombeau de Bernadette, et puis aussi le tombeau de l'abbé Peyramale, parce que c'est ça aussi l'occasion de reparler de Bernadette aux Lourdes. Ils étaient très très nombreux, les Lourdes, à être là samedi, parler de Bernadette Soubirousse, voilà, cette lourdaise qui rencontre l'abbé Peyramale, voilà, quand elle reçoit de cette apparition le 25 mars cette phrase énigmatique, qui est « Immaculate Conception, je suis l'Immaculée Conception » en patois, c'est l'abbé Peyramale, le curé de Lourdes, qui à l'époque comprend, et puis voilà, on comprend que c'est là que tout bascule et que le destin de la ville va se transformer. Donc c'était une très très belle occasion, donc maintenant que cette place est inaugurée, il faut venir la voir, il faut venir la visiter.
Et il faut venir la vivre surtout, voilà. Je note quand même que vous avez toujours cet accent patois tout à fait excellent.
Vous aimez beaucoup, c'est pour ça que je vous ai souri. Vous aimez quand je dis, quand je parle, oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas très fortement l'accent bigourdant, donc c'est sûr, quand je parle un peu bigourdant, ça fait sourire.
Et donc, en français, je suis bien sûr l'Immaculée Conception, hein, c'est ce qu'elle vient dire au curé Peyramale. Et en fait, c'est là aussi il y a eu le basculement, hein, parce qu'il a commencé à la croire, là.
Exactement, et c'est ouais. ça. C'est le préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon, dans son discours, qui a dit « Bernadette l'a vu, l'abbé Peyramale l'a cru ». Et c'est vrai qu'il fallait la croire pour pouvoir édifier cette chapelle, même toute petite, vous voulez, cette chapelle, et donc elle deviendra... Une grande
belle chapelle,
la basilique de l'Immaculée Conception. Et donc justement, samedi soir, je reviens juste un petit peu en arrière encore, il y a eu une célébration à la suite du chapelet italien à la grotte elle-même. Vous savez que ce chapelet est retransmis sur les réseaux sociaux, sur la télévision italienne. Et il y a eu un moment assez exceptionnel, puisque le cardinal Reina était présent, puisque c'était le diocèse de Rome qui est en pèlerinage à Lourdes ce week-end. Le cardinal Reina, c'est le vicaire de Rome, hein. Donc on sait que le pape est l'évêque de Rome, et bien donc son vicaire, le cardinal Reina, était là pour conduire tous ces diocésains romains en pèlerinage à Lourdes, et puis aussi pour amener avec lui le reliquaire de Sainte Bernadette, puisque les reliques de Bernadette, donc il y a plusieurs reliquaires, mais le reliquaire principal qui a l'habitude de voyager à travers le monde, eh bien, ils sont repartis, les Romains. Ils nous la ramèneront, ça c'est promis, nous l'ont dit. Hein. Mais ils sont partis avec le reliquaire de Sainte Bernadette pour 4 mois d'un voyage autour de Rome, dans toute la banlieue. Et donc, Bernadette va pouvoir visiter des paroisses, des hôpitaux, des écoles, des centres pénitentiaires également italiens. Donc, on va pouvoir suivre le voyage de ces reliques. Parce que ça fait écho aussi aux précédents voyages. Alors, il y en a eu à travers l'Europe, beaucoup, mais notamment un qui a beaucoup marqué les esprits, c'est aux États-Unis. Et donc, c'était il y a plus de 2 ans. Bernadette Soubirousse, son reliquaire, a parcouru plus de 40 États des États-Unis. Et on a vu là une affluence folle. On a pu suivre Bernadette à New York, sur la 5e Avenue, Bernadette à Brooklyn, etc., avec des processions de Lourdes qui s'organisaient à ce moment-là. Eh bien, vous savez qu'il y a un spectacle musical, Bernadette de Lourdes. Il a été joué en France, il a été joué en Italie. Eh bien, il se joue aux États-Unis. Et une grande tournée va s'organiser en 2026. Et très certainement en retournant voir tous les lieux où les reliques de Bernadette se sont arrêtées. Et là, dans quelques jours, les 28 et 29 septembre, eh bien, ce grand show musical Bernadette de Lourdes a été capté en images. Il sera diffusé dans tous les États-Unis, à Broadway, à New York, à Chicago, à Los Angeles, à Miami. Enfin, il y a plein de villes. Moi, j'ai pris que celles que l'on connaît, vous savez, qui sont un petit peu célèbres. Et donc, pendant 2 jours, eh bien, Bernadette sera sur les écrans de cinéma américain. Et donc, voilà un moment, un moyen aussi pour informer que cette tournée s'organisera en 2026. Vous savez, le professeur Jacomet avait dit à Bernadette au moment de l'interrogatoire, pendant les processions, Bernadette, tu fais courir le monde. Ben, je crois qu'elle continue évidemment de faire courir le monde. Donc, elle a su rassembler tous les Lourdais et toutes les familles de Lourdais pour inaugurer cette belle place et cette église. Elle a su réunir aussi les Romains. Voilà, et c'est pas peu de choses. Et puis également les États-Unis.
États-Unis.
Voilà, Bernadette Soubirous.
Et je pense qu'elle ne elle devait pas imaginer ce qu'elle est devenir lourde aujourd'hui et tout ce qui s'est passé juste après grâce aux apparitions et à son histoire incroyable et singulière.
Ouais. En tout cas, Bernadette est bien là.
Elle est bien là.
Son souffle est toujours là. Et voilà.
Très actuelle, Bernadette. Elle a toujours le message à... Mais écoutez, vous avez l'art de la transition, puisque vous avez parti de l'église paroissiale en passant par le sanctuaire qui nous a mené à Rome. Et de Rome, on a fini aux États-Unis. Bravo.
Vous avez vu un tour du monde qui ne vous a pas coûté cher.
Non, c'était bien. Et puis on vous écoutait avec grand plaisir. Je ne sais pas si vos enfants, mon cher David, ont fait la rentrée scolaire.
Ah oui, mais c'est le plus beau jour de l'année, Philippe, quand les enfants reprennent l'école.
Eh bien, écoutez, dans quelques instants, on sera avec Jean-Marc Courtade qui nous parlera de la rentrée. À la fois aussi celle des professeurs, puisqu'il rentre un petit peu avant, c'était vendredi dernier, et puis celle des élèves aujourd'hui. Et on souhaite bien sûr bon courage à tous les élèves. Et puis des fois aussi aux parents, parce que souvent c'est les parents qui sont plus stressés que les enfants.
C'est vrai. Et puis bonnes vacances à tous les grands-parents.
Voilà, c'est parti. Ils vont pouvoir souffler. Allez, on retrouve Jean-Marc Courtade d'ici quelques instants. À la semaine prochaine.
David. À la semaine prochaine, merci.
À Super Bannière, 94.
La beauté qu'on délaisse, pour les soleils qu'on n'a pas vus, les passions qu'on n'a pas vécues, pour l'ignorance et la paresse. On va, on vient, on rêve, on parle, on va, on vient, on rêve, on parle. Je suis venu tendre et stupide, hanter la maison du bonheur. J'y suis entré comme un voleur et j'ai trouvé la maison vide. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. Tu m'as dit, regarde la lune. Mes yeux n'ont pas quitté ta main. Reste un regret sur mon chemin. Reste un reflet sur la lagune. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. On rit jusqu'à rêver qu'on peut changer de rôle. On rit pour oublier que tout ça n'est pas drôle. J'ai voulu voir la vie en rose, mais les couleurs sont ce qu'elles sont. On aime à perdre la raison en désespoir de toutes les causes. On va, on vient, on rêve, on parle. On va, on vient, on rêve, on parle. On rit, on rit. On rit jusqu'à rêver qu'on peut changer de rôle. On rit pour oublier.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Lundi 1er septembre, c'est la grande rentrée des élèves, même si vous avez fait une pré-rentrée vendredi dernier avec les professeurs. Bonjour Jean-Marc Courtade.
Bonjour.
Vous êtes le directeur, alors on va prendre un peu de temps parce que vous êtes le directeur du site de Prado, c'est une école maternelle élémentaire, le site de la CED, Collège et Lycée Général et Technologique. Vous êtes également sur le site Saint-Pierre, un lycée professionnel, campus supérieur et centre de formation d'apprentis. Et puis également celle de Saint-Joseph-d'Aussun, je crois, l'école maternelle élémentaire, on l'a dit tout à l'heure. Ça fait beaucoup d'établissements scolaires, ça, sur votre giron?
Alors, je suis chef d'établissement en réalité, puisque directeur, c'est sur l'enseignement public.
D'accord.
Donc, je suis coordinateur, hein, puisque j'ai différentes. On est une équipe de direction de 12 personnes. Et donc, je suis coordinateur de ces ensembles scolaires, surtout au niveau du personnel. Mais voilà, mais j'ai une très bonne équipe de direction qui m'encadre pour faire tout ça, parce que sinon, je pense que j'y arriverai pas tout seul.
Alors, quel est sous le signe de la rentrée 2025? Comment se porte l'établissement, vos établissements?
Ben écoutez, nos établissements se portent bien, hein, puisque que ce soit collège, lycée, supérieur, voilà, nos effectifs sont là, c'est important, peut-être trop important peut-être pour certains, mais c'est vrai que nous avons une forte demande, que ce soit le Prado, Aussun et le collège, et ensuite le reste, c'est plus de la carte de formation, c'est plus de les domaines particuliers, c'est d'autres métiers. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, tout se passe bien. En plus, il ne va pas faire très chaud, donc ça, c'est impeccable.
Impeccable,
voilà. Et puis, les premiers parents arrivent ce matin, accompagnant leurs petits rejetons.
Les effectifs, donc, sont stables. On a dit que dans le primaire, il y avait beaucoup moins d'élèves cette année, mais vous maintenez vos effectifs?
Nous, on maintient nos effectifs, oui, que ce soit au sein ou au Prado, on maintient nos effectifs. En tout, c'est 1900 élèves sur l'ensemble scolaire.
Sur l'ensemble, c'est 1900 élèves.
1900, donc voilà. Oui, nos effectifs sont stables, voilà.
Parlons en deux mots de, voilà, vous êtes un établissement scolaire, mais privé, donc catholique. Quelles sont les valeurs ou votre identité qui font qu'aujourd'hui, on pousse plutôt la porte de votre établissement que d'autres?
Alors, bon, nos valeurs, elles sont portées par deux congrégations, les congrégations de Saint-Joseph quant à Lourdes, et la congrégation des Filles de la Croix, qui se situe plus sur Rigaud, sur le 24, mais notre congrégation est sur le Saint-Joseph. Donc, moi, c'est les valeurs de partage, les valeurs d'accompagnement, surtout, voilà, d'essayer de faire que ce jeune, eh bien, on le fasse grandir, hein, dans nos établissements. Maintenant, on peut lui apporter un diplôme, ça c'est important, mais surtout une vision des choses, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est, on est assez demandé à ce niveau-là. Après, on est confronté en ce moment à toute la mouvance de l'enseignement, de l'éducation nationale, et puis on respecte aussi les partenariats avec l'éducation nationale, mais on est sous contrat l'État, donc pour l'instant on peut aussi emmagasiner des projets, faire des actions, voilà, sans être dépendant à 100%, même si on respecte entièrement oui. Les référentiels et puis l'accompagnement de nos enseignants.
Deux mots sur le lycée professionnel, vous avez des spécialités, quelles sont vos spécialités au lycée professionnel?
Alors, sur le lycée professionnel, la grosse spécialité, c'est tout ce qui tourne autour de l'informatique et de l'électronique et de la cybersécurité. Bon, c'est des grands mots en ce moment, mais c'est vrai qu'on est sur là-dedans, donc une filière là-dessus, qui va jusqu'en bac plus 5 maintenant, puisqu'on fait lycée pro, et ensuite et cette année, on ouvre une mention complémentaire tenant en réparation électronique. C'est vrai que de plus en plus, on répare maintenant.
Oui.
Et on retouche la carte électronique. Voilà, donc on ouvre une mention là-dessus, c'est l'apprentissage. Et ensuite, et deuxième spécialité en lycée professionnel, tous ceux qui mettaient la sécurité. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis, beaucoup de demandes. C'est tout ce qui est police, gendarmerie, sécurité privée. Et ensuite, là aussi, on monte jusqu'à un BTS en ce moment de manager de sécurité.
C'est-à-dire que pour entrer dans la police ou la gendarmerie, il est plutôt bon d'avoir un diplôme de la sécurité?
Alors, c'est pas essentiel, hein, puisqu'on peut passer des concours.
Hein. Oui.
Les concours, ils sont au niveau bac. Mais globalement, pour un jeune qui est en lycée pro, qui vient de 3e, les études, c'est pas son fort, mais il adore, il voudrait être pompier volontaire ou être pompier professionnel. Et gendarmerie police, c'est une filière qui peut être très intéressante pour lui. Et c'est vrai qu'elle est très appliquée, elle est soutenue par des anciens professionnels, pompiers, gendarmes. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une passerelle. Maintenant, on peut passer les concours Mais là aussi, les concours sont très spécifiques et nous avons aussi une préparation concours au niveau du lycée.
Alors, vous avez, je pense aussi, des relations avec les entreprises, parce que on sait que ce genre d'enseignement, eh bien, il y a des stages à faire. Donc, vous avez aussi tout un réseau d'entreprises qui vous font confiance.
Alors, on essaie de monter de plus en plus cette relation entre l'entreprise et l'école. Alors, on suit aussi les recommandations de la préfecture et tout ce qui se met en place en ce moment. Puisque l'école, si on ne fait que des jeunes de l'école et on n'a pas la relation avec l'entreprise autour, c'est-à-dire nos métiers, nos formations qu'on a, il faut qu'on découvre l'entreprise. Alors c'est pour ça qu'on s'est lancé il y a 4 ans maintenant sur l'apprentissage. On reste sur nos métiers. On a 100 apprentis dans l'établissement en ce moment. Ça veut dire que les entreprises ont besoin de ces métiers. Et qu'on soit clair, c'est pas, on ne veut pas faire du chiffre au niveau des apprentis. Mais ça veut dire que ça fonctionne. Oui, on a aussi un bureau des entreprises en ce moment qui se met en place comme l'enseignement public, parce qu'on a besoin de cette collaboration entre l'école et l'entreprise. Si on était deux mondes différents, et là on se croise, beaucoup de stages en ce moment. Voilà, on fait. Nos parents aussi nous aident à trouver des stages pour les jeunes. Mais c'est vrai que si on fait des formations alors que derrière il n'y a pas d'emploi, ça sert à rien. Quoi.
Ben oui, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir aussi cette relation école-entreprise et aussi qu'ils soient confrontés aux vrais métiers qu'ils vont faire un petit peu plus tard.
Hein. Et voilà, même ouais. Si les métiers évoluent, hein, de toute façon, on est sur la base, nous, hein, on n'est pas sur l'entreprise, on dit ils ne sont pas formés. Techniquement, mais nous on est sur la base de ces jeunes. Après, ces jeunes-là, avec la montée d'apprentissage en ce moment, c'est vrai que c'est un atout important.
Donc, qui dit apprentissage dit diplôme CAP, c'est ça, hein?
Non, on va jusqu'à du bac plus 5 maintenant.
Du bac plus 5, même si on parle de ce terme d'apprentissage, on va jusqu'au bac plus 5. D'accord.
Oui, oui. Alors, nous, on n'a que ça, hein, on n'a que du post-bac.
Oui.
Voilà, on a tous nos BTS qui peuvent être en apprentissage.
D'accord.
Et on en a 7. On a un bachelor, donc un bac plus 3. On en a un web marketing et réseaux sociaux et un en informatique. Et ensuite, on a deux masters, un master en management et entrepreneuriat et un master en informatique. Enfin, informatique, tous les mots qui suivent l'informatique, cybersécurité, data, etc.
D'accord, très bien. Juste deux mots pour terminer, parce que je sais que vous êtes très pris ce matin, c'est la rentrée, donc ça doit courir de partout.
Votre parents de 6e matin.
votre lien école-famille, hein, puisque les parents vous appellent, c'est comment?
Alors, il est très important pour nous, l'enseignement catholique. Hein. C'est clair que c'est la base, hein, en dehors du caractère propre de l'établissement, c'est la base avec les familles. Voilà. Donc, et par exemple, dans 5 minutes, je vais aller rejoindre l'association des parents qui offre un café ce matin à tous les parents qui arrivent et qui rassurent aussi peut-être un petit peu. Donc voilà, il est très très important dans nos établissements. Nous n'avons qu'une association de parents et cette relation elle est très importante, surtout de nos jours. Quoi.
Voilà. Oui. Et la relation. Alors je sais que donc vous êtes très pris. La relation avec les sixièmes, c'est important parce que même si pour vous c'est la énième rentrée scolaire, on sait que ce changement majeur entre l'école élémentaire et puis ensuite la sixième, c'est un passage. Hein.
C'est un saut.
C'est un saut.
C'est un saut, mais il n'est pas très important. Quoi. C'est un saut. Voilà, on change aussi de structure, d'endroit. Voilà, 98% de nos élèves du Prado remontent sur la sède, mais bon, toute l'année on fait du bien entre les CM2, on a des activités sportives ensemble, il y a toute une démarche qui se fait pour rassurer les CM2. Ce matin, je pense que c'est plus les parents qui sont inquiets que les CM2.
D'accord.
Nos CM2 du Prado ne seront pas inquiets parce que toute l'année ils sont venus faire du sport sur la sède.
Et donc ils connaissent. Ils connaissent l'établissement. Ça, ouais. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Courtat.
Merci.
La rentrée s'est bien passée. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Voilà. Au revoir.
Oui, merci. Au revoir.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just another day.
Reconnu la belle voix de Stevie Wonder à l'instant sur Présence avec I Just Call to Say I Love You. Et puis on va profiter, on le fait pas souvent, mais on fait aussi des dédicaces sur Radio Présence et on souhaite bien sûr une bonne fête à tous les Gilles s'ils nous écoutent. Et on en a un ici, Gilles Galbardi, que vous retrouverez d'ailleurs demain dans le Présence Midi entre 12h et 13h. Donc on lui souhaite tout simplement une très belle fête et à travers Gilles Galbardi, mais à tous les Gilles qui nous entendent. Allez, il est l'heure de retrouver l'actualité de la mi-journée en compagnie des élèves des écoles de journalisme de la région toulousaine.
Bonjour à tous, 508 769, ce sont le nombre d'élèves qui feront leur rentrée aujourd'hui dans l'Académie de Toulouse, selon son recteur Karim Bemmiloud. C'est 4000 élèves de moins que l'an passé, dû à la baisse démographique que rencontre le territoire. Cela étant, et malgré la baisse significative des moyens consacrés à cette rentrée, sont quant à eux augmentés. Sur le second degré, 12 emplois ont été créés, ainsi que 80 emplois d'AESH et 11 emplois administratifs. Le Premier ministre François Bayrou présente aujourd'hui son budget à l'Assemblée nationale, suivra un vote de confiance, lequel, s'il est négatif, entraînera la chute de son gouvernement. D'ores et déjà, la plupart des députés de la région ex-Midi-Pyrénées votera contre la confiance, mis à part ceux siégeant dans le groupe de la majorité présidentielle. L'épisode nuageux d'hier en fin de journée a fait des dégâts dans le Gers, dans l'ouest du département, des chutes de grêle particulièrement localisées. Le service départemental d'incendie et de secours du Gers indique que 7 interventions ont été menées, tandis qu'une vingtaine d'appels ont été régulés vers les services de travaux routiers. Les dégâts constatés concernent principalement des infiltrations d'eau et des chutes d'arbres ou de branches. À Oze, des infiltrations d'eau ont nécessité le transfert d'une dame âgée et alitée vers l'hôpital de Nogaro. À l'occasion de la rentrée 2025, Tisséo renforce son réseau de transport en commun. De nouvelles lignes Linéo voient le jour, la L7 entre Saint-Aurens et l'université Paul Sabatier en passant par le quartier Malpère et la L12, première ligne transversale reliant Montaudran à Bordeaux-Rouge. Autre nouveauté, la 117 Express, un bus rapide qui reliera Muret à Toulouse en seulement 35 minutes. Dans l'ouest toulousain, trois lignes, 401, 402, 403, améliorent les connexions entre les communes et les gares TER. À noter également des ajustements sur plusieurs lignes déjà existantes, notamment la ligne 35 et 109, ainsi que des changements sur les dessertes scolaires à partir du 1er septembre. Plus d'informations sur tisseo.fr. Et puis un peu de sport avec les résultats des équipes de notre région. En Ligue 1, le Toulouse Football Club s'incline face aux champions d'Europe du Paris Saint-Germain sur le score de 3-6. Côté rugby, belle opération de Colomiers qui est parvenue à s'imposer à l'extérieur face à Mont-de-Marsan sur le score de 24-20. En National 1, Albi s'impose face à Massy 19-16 et Tarbes à Surens s'incline sur le score de 19-10. Très bonne journée sur Radio Présence.
Merci à tous les élèves d'École Journalisme avec qui nous avons un partenariat qui nous présente donc l'actualité de la mi-journée. Le retour de l'actualité, ce sera bien sûr à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. C'est un personnage médiatique très connu au niveau national, c'est Michel Coll. Il était de passage à Lourdes pendant la fête de l'Assomption autour du 15 août et il est venu au micro de Mathias Terrier dans l'émission De Passage à Lourdes.
Présence De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons passer un très bon moment aujourd'hui en compagnie de Michel Coll. Bonjour.
Bonjour Mathias.
Alors on a du mal à vous présenter. Pourquoi ? Parce que d'abord vous avez un parcours très éclectique, même si on va voir que c'est très unifié tout cela. Mais dans l'univers de l'information religieuse, vous avez été éditeur, vous avez été journaliste, j'aurais dû commencer par ça, écrivain, chroniqueur, éditorialiste, que sais-je. Enfin bon, on vous connaît.
Radio-télé aussi.
Radio-télé, on vous connaît à travers des ouvrages. Un ouvrage qui sera peut-être au cœur de notre conversation, qui est « Conversion au silence », paru en 2011, où vous racontez qu'il y a une bascule, là, que vous chavirez peut-être d'un catholicisme hérité, traditionnel, sociologique, vers une foi personnelle. Et puis, votre rapport à Lourdes nous intéresse beaucoup. Vous aimez ce lieu dont on dit qu'il est un lieu de piété populaire, alors que vous, j'oserais dire, vous êtes plutôt intellectuel. Ah, oui. Peut-être que vous nous direz que cette simplicité de la foi telle qu'elle est exprimée à la grotte, eh bien, très vite vous rejoint dans votre histoire, dans votre parcours. Bref, des sujets, nous en avons à évoquer ensemble. Mais est-ce que je pourrais dire en commençant que vous avez exercé le métier d'informateur religieux sans vous rendre compte que le bon Dieu marchait à côté de vous et que vous ne le regardiez pas?
Ouais, c'est une très belle image, ça correspond tout à fait à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je suis né dans une famille catholique, pratiquante, je suis né, j'ai fait mes études dans l'enseignement catholique, jusqu'à mon bac. Voilà, j'ai été au catéchisme, j'ai même été enfant de cœur et j'ai même songé, tout petit, à devenir prêtre. Et mes parents m'avaient mis au petit séminaire. Alors vous voyez, à l'époque, il y avait les petits séminaires et j'étais interne à l'âge de 9 ans, vous vous rendez compte, parce que mes parents croyaient vraiment et respectaient cette envie que j'avais d'être prêtre. Et ils s'étaient aperçus que j'aimais bien célébrer la messe sur la table à repasser de ma mère. Ce qui est drôle, c'est que j'ai appris que le pape Léon XIV, quand il était petit, il avait 10 ans, on a à peu près le même âge, il est de 1955, je suis de 1956, et bien lui aussi célébrait la messe sur la table à repasser de sa maman. J'ai fait la même chose. Donc si vous voulez, mes parents ont pris ça très au sérieux. C'est beau d'ailleurs que les parents prennent au sérieux. Hein.
Mais jusqu'à l'âge de 49 ans, vous allez grandir dans la vie, dans la profession, reconnaissance dans le métier. Enfin, vous avez vraiment exercé dans plus de nombreux médias, des très connus. Et à 49 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est un...
Alors,
un 25 janvier, je crois.
Le 25 janvier, qui, je m'en suis aperçu bien après, qui est la fête de la conversion de Saint-Paul. Le 25 janvier 2007, j'étais dans une abbaye en Belgique, je faisais un reportage, et là, j'ai été saisi par un sentiment violent et doux d'une présence à mes côtés. Or, cette présence à mes côtés, elle n'était pas, si vous voulez, fortuite, elle n'était tombée pas par hasard. Je vivais un moment particulier dans ma vie très, très, très douloureux, puisque j'avais été licencié, un licenciement très sec, qui peut arriver à n'importe qui. J'avais été très touché par la mort de mon père, après une longue, longue maladie, comme on dit de manière décente. Et puis, j'avais été moi-même frappé par la maladie, enfin une pathologie s'était révélée, alors que j'avais une santé de fer, moi j'étais invulnérable. Donc tout ça en même temps, j'étais devenu quelqu'un de très très fragile, et j'en souffrais beaucoup. J'en souffrais beaucoup, et ça avait donné un sale coup à mon espérance, si je puis dire. Ouais. Et donc là, à ce moment-là précis, alors que je me trouvais dans un cadre magnifique, une très belle abbaye, communauté magnifique aussi, j'ai été, à l'heure des Laudes, j'ai été saisi par la main secourable de quelqu'un, avec un Q majuscule, quelqu'un, personne, et qui m'a...
Et là, vous rencontrez
qui m'a dit, quand j'ai voulu expliquer ce qui m'était arrivé, qui a été un tressaillement profond, puisque j'ai eu une crise de larmes, une crise de larmes qui m'a libéré d'une certaine manière et qui m'a surtout apaisé. Et je n'arrivais pas à exprimer intellectuellement, vous disiez que j'étais intellectuel, je n'arrivais pas, moi qui suis plutôt en effet un homme de raison, qui essaie de démontrer, expliquer, c'est ça le but d'un informateur, hein. Et là, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. Et les seuls mots qui me venaient quand je voulais expliquer ce moment incroyable, extraordinaire que j'avais vécu, c'était « Tu n'es pas seul, je suis là, je t'aime. Tu n'es pas seul, je suis là, je t'aime. » Mais je ne pouvais pas dire autrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, vous voyez, bien des années après, je ne sais dire que cela. Je ne peux pas vous dire autre chose. Sauf que, justement, un peu distrait, le catho tranquille, autosuffisant que j'étais, et rentrer dans une autre zone, une autre sphère, qui est une sorte de l'intranquillité de la foi. D'une certaine manière, je me suis senti ce jour-là missionné. Sors de ta zone de confort, sors de tes habitudes, sors de ton petit train-train, coutumier, et aussi de tes prétentions de journaliste, je te missionne, je t'envoie, soit un témoin, là où tu es, là où tu vas, soit dans ta famille, dans ton métier, plus difficile, dans le milieu des médias, d'autant plus que je fréquentais pas seulement la presse catholique, j'allais aussi France Culture, les chaînes de télévision, je participais à l'émission d'Yves Calvi, c'est dans l'air, bon. C'est pas les lieux, si vous voulez, ou dire, vous savez, je crois en Jésus-Christ, c'est pas très valorisant, quoi. Eh bien oui, il fallait que je témoigne. Et si vous voulez, pour moi, ça a été vraiment, comme vous le disiez très bien, un moment de bascule, c'est-à-dire, je me suis senti appelé à être un témoin. Et ben voilà, ça fait plusieurs années maintenant que ça dure, hein, 2007, on est en 2025, ça fait toutes ces années-là, j'essaie maintenant d'être un témoin.
Et ceux qui vous disent, Michel, quelle chance tu as d'avoir rencontré le Christ, je suis pas dans la nuit de la foi, mais je cherche, vous répondez quoi ?
Ben, je reprendrai l'expression que vous aviez tout à l'heure, retourne-toi, il y a quelqu'un derrière toi, ou regarde devant toi, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Émile, c'est plutôt ça. Donc tu ne le vois pas. Parce qu'on est pris par des tas de choses, on est pris par ses propres soucis, préoccupations, ses velléités ambitieuses, enfin. Et on ne fait pas attention. Et puis finalement, quand on prend le temps, ou quand le temps s'impose à nous, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes mis face à face avec vous-même, ce qui était mon cas, moi, en 2007, face à toutes ces épreuves. Et là, quand vous prenez un peu le temps de mesurer tout ce qui vous arrive, là. Il surgit, il est là, le Christ est là. Et je dis souvent à ceux qui me disent « Oui, t'as de la chance », je me dis « Mais vous aussi, vous avez eu la chance. » Relisez votre vie, relisez le parcours de votre vie. Vous allez voir, il y a un moment, vous pensiez que vous étiez dans le noir le plus absolu, et puis, paf, il y a eu un jet de lumière. Il y a eu quelque chose, vous vous êtes senti dans un moment d'émerveillement, peut-être comparable à celui qu'ont eu les apôtres au moment de la transfiguration. Demandons-nous dans notre vie quand il y a eu des moments de transfiguration, ces moments où vous avez l'impression que tout se dilate en vous, il y a une lumière extraordinaire qui vous ébranle, mais qui vous réconforte, qui vous réchauffe, qui vous fait du bien, mais pas du bien pour soi, qui vous sort de vos petites misères et de vos peurs surtout. Et c'est là, vous vous dites, là il y a eu un moment comme ça. Ça peut être un moment familial, professionnel, un moment de solitude, une contemplation devant un magnifique paysage. On ne sait pas, ni l'heure ni le jour, mais tous nous avons vocation à rencontrer le Christ, personnellement.
Donc le sujet de la révélation, c'est pas que le Christ ne se révèle pas à nous, c'est que nous ne le voyons pas.
C'est ça. Nous sommes des aveugles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup venir à Lourdes.
Ah, Lourdes.
C'est un lieu où les aveugles voient. Nous sommes tous des aveugles. Mais nous sommes saisis tout de suite par la lumière de Lourdes. Nous sommes saisis par l'onde du Gave. Moi, j'aime écouter le Gave. J'aime beaucoup aller très tôt le matin devant la grotte quand il n'y a quasiment personne. Quand on arrive à se lever tôt, vers 5 heures du matin. Vous installez sur un banc, là, et près du Gave. Et on reste là. Moi, je pourrais rester là une heure à écouter le chant du Gave qui porte ma prière. Pas forcément formulé. Et Lourdes est un de ces lieux, justement, où on peut faire le point, relire sa vie, contempler l'humanité dans toute sa diversité. Et se réconcilier avec nous-mêmes, parce que j'en fais partie de cette humanité. Je crois vraiment que c'est un lieu extraordinaire. On voit.
Mais vous acceptez cette part de mystère, vous qui aimez la rationalité, la démonstration.
Oui. Vous disiez d'ailleurs que j'étais un intellectuel. Oui, je suis un intellectuel, mais je viens d'un milieu populaire. Mon grand-père était terrassier. Mon grand-père flamand. Parce que j'ai un nom flamand, était terrassier, donc j'ai bien connu ma grand-mère, elle travaillait dans une filature dans le Nord, était ouvrière. Donc si vous voulez, je connais bien le monde populaire. Je connais bien le monde populaire, et plus je vieillis, je vais vous faire une confidence, plus je vieillis, plus je me sens un fils de ce peuple-là. Et d'ailleurs, je fais une petite confidence, je travaille sur un projet de roman qui aura sans doute une empreinte spirituelle, mais qui veut raconter et rendre hommage à ce peuple-là. Ce peuple qui m'a appris quelque chose qui rejoint beaucoup Bernadette, d'ailleurs, qui est la gratitude. Les gens du peuple savent énormément remercier. Et ils savent aussi énormément être humbles, modestes et surtout tolérants. Je n'ai jamais connu de gens aussi tolérants que ce qu'on appelait, entre guillemets, j'aime pas ce que ça, les petites gens. Les gens humbles et petits, quoi. Et moi, ils m'ont appris ça. Je dois beaucoup cela. C'est pour ça que je me sens très à l'aise aussi avec l'histoire de Bernadette. Alors, j'ai écrit un livre sur le mystère de Lourdes. Je parlais justement du mystère. Je suis très respectueux devant le mystère. Je suis très attiré par le mystère. Ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne connaît pas, ça peut étonner de la part d'un journaliste, parce que généralement, les journalistes ont dit « Ouais, ils veulent tout. » Non, mais ils savent tout. Ils sont très documentés, très instruits. Moi, j'aime beaucoup dire « Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. » Et ce n'est pas un déshonneur pour un journaliste, même après 40 ans de métier, de dire « Il y a des choses que je ne sais pas. » Je ne sais plus le pourcentage de terra incognita, de lieux inconnus, de terres restées vierges dans notre planète aujourd'hui, que nous ne connaissons pas. Que nous, aujourd'hui, qui avons créé Internet, qui sommes au sommet de la connaissance, il y a encore des endroits du monde que nous ne connaissons pas. Alors, dans le domaine de la foi et dans le domaine de la spiritualité, que de choses nous ne savons pas.
Michel Cole, nous allons nous arrêter quelques instants, si vous le voulez. Juste après, nous continuons cette conversation avec vous. Nous parlerons, tiens, d'un bon coup d'édition que vous n'avez pas souhaité. Lorsque vous sortez ce livre François l'anticonformiste, eh bien, les cardinaux entrent en conclave. Alors que vous l'avez écrit, j'imagine, des semaines et des mois avant. Enfin, on parle de tout cela, puis aussi votre regard sur l'Église actuelle, sur le pape, notre pape, puisque vous êtes là à l'occasion du pèlerinage de l'Assomption, du pèlerinage national de l'Assomption, avec cette grande famille assomptionniste et puis tous les pèlerins autour du 15 août, et que vous allez vous donner une conférence sur ce sujet. Donc à tout de suite.
À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Respire. Tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la vie. ce que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est force et peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière. Aux rebelles incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble.
Michel Kohl est notre invité aujourd'hui. Il témoigne dans cette émission de Passage à Lourdes, dont vous disiez que Lourdes est proche finalement de ce que vous vivez spirituellement, et puis vous vous sentez très proche de cette petite Bernadette. Mmh. Michel Kohl, on a dit que vous étiez écrivain, journaliste, vous avez exercé aussi le métier d'éditeur, patron de rédaction, dans de nombreux médias, alors écrit, audio, télé, voilà. Vous avez œuvré dans tous ces univers. On vous doit un livre sur Lourdes, dont on a parlé, oui. Lourdes, le mystère Lourdes d'hier à aujourd'hui. Un livre aussi qui était au cœur du début de conversation que nous avions, votre conversion, ce livre paru en 2011, mais qui fait le récit de ce que vous vivez un 25 janvier 2007 dans une abbaye, dans le Nord. Nord de la France.
En Belgique.
En Belgique, pardon. Vous racontez votre conversion. Ça s'appelle Conversion au silence. Et puis là, on en vient à un autre livre, tout autre, qui est celui qui paraît le 6 mai 2025. Alors même que les cardinaux entrent en conclave pour élire le prochain pape, qui est Benoît XIV. Je disais que c'est un coup d'édition, mais en fait, vous ne l'avez même pas pensé comme ça.
Non. Non. Non, parce que c'est un livre que j'avais entamé à la demande de mes éditeurs, que j'avais commencé à l'automne 2024, pardon, excusez-moi. Et donc j'étais en train de le travailler. Bon, j'étais très inquiet de voir l'état de santé de notre pape François se dégrader, mais voilà, il n'y avait pas de raison de spéculer sur... le décès du pape, et donc j'ai été surpris. En effet, j'étais quasiment arrivé au dernier chapitre quand le pape nous a quitté ce fameux lundi de Pâques, et donc évidemment à ce moment-là mes éditeurs ont été très très rapides et le livre est sorti hasard de circonstances, ou alors certains me disent mais c'est le Saint-Esprit, sorti le jour où les cardinaux entraient en conclave. C'est extraordinaire.
Oui.
Les cardinaux entraient en conclave, donc dans le silence. Ça n'a pas duré longtemps, ça a été très rapide, hein, puisqu'ils ont élu très très vite Léon XIV, mais le livre est sorti ce jour-là. Donc j'y ai vu comme un... D'une certaine manière, j'y ai vu un petit clin d'œil du pape François. D'une certaine manière, ce qu'il a dit, bah, tu vois, voilà, ils vont élire mon successeur.
François, l'anticonformiste, vous prenez les dossiers un peu fondamentaux sur lesquels il prend la parole, il s'exprime, il fait bouger les lignes, c'est ça ?
Oui, ce qui m'a marqué, si vous voulez... J'ai longtemps été agacé, je suis souvent agacé par les étiquetages que l'on fait des personnages publics, même dans l'Église. Il est progressiste, il est conservateur, il est de droite, il est de gauche, il est ceci, il est cela. Bon, c'est très humain, on veut toujours étiqueter. Hein. Étiqueter, c'est en même temps réduire, considérablement ce qu'est d'abord toute personne, on est tous très complexes, et encore plus une politique ou un pontificat, qui plus est un pontificat. Donc ça me paraissait très, très réducteur et très dommage, et j'ai cherché donc ce qui pouvait caractériser la personnalité du pape, mais pas seulement sa personnalité, mais aussi son œuvre en tant que je dirais prêtre, jésuite, évêque et pape, parce que c'est un tout. Le pape disait tout est lié, disait François, moi j'aime beaucoup, tout est lié, on peut pas couper quelqu'un en rondelles, ni vous, ni votre vie à vous, ni la mienne, on peut pas, on forme un tout. Et donc je me suis beaucoup j'ai mis plusieurs années à travailler là-dessus ça me passionnait, et j'ai découvert que ce qui caractérisait le mieux le pape François, c'était son anticonformisme, sa liberté extraordinaire. Et la lecture d'un entretien qu'il avait donné à Dominique Volton, le sociologue, m'en a convaincu. Volton lui demande à un moment, comment faites-vous pour être aussi décontracté, libre ici au Vatican ? Parce qu'il y a un protocole, il y a des règles. Or, vous êtes un homme qui transgressait les règles. Et il lui répond, moi, je suis libre comme un poisson dans l'eau. Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis libre spirituellement. Magnifique ! Il est libre, Max. Libre comme un poisson dans l'eau. C'est la définition, pour moi, simple, accessible à tous, de la liberté spirituelle. Je sais que je suis aimé, je sais que Dieu est toujours à mes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je connais mes fragilités, je connais mes faiblesses, mes défauts, Dieu sait qu'il les connaissait, hein. Mais je suis libre, et personne ne m'empêchera d'être libre. Et je crois que le pontificat de François, les 12 années que nous avons vécues, montre cela. Une liberté en mouvement, une liberté en action, qui a pu enthousiasmer certains, agacer d'autres. Mais quand même, ce pontificat, on n'est pas prêt de l'oublier, me semble-t-il. Donc, j'ai voulu expliquer cela et montrer comment s'était manifesté cet anticonformisme du pape François dans des dossiers aussi importants que la diplomatie vaticane, le règlement du problème du scandale des abus, la synodalité, le lançon sur les rails d'une église synodale, enfin, tous ces grands sujets... les migrants, enfin bon. Donc j'ai repris toutes ces thématiques qui ont profondément scandé le pontificat, et à chaque fois montré que c'était une mise en œuvre de cet anticonformisme spirituel qui animait le pape François, et qui d'une certaine manière s'adresse à nous aussi. Sommes-nous, dans la société et dans notre Église, des anticonformistes aussi spirituels, capables aussi, nous, de faire bouger les lignes pour qu'on se convertisse un peu plus à l'Évangile?
Oui, vous considérez que le conformisme, c'est un enfermement.
Le conformisme...
On reproduit, au fond...
Moi, je l'ai été, hein. Moi, je l'ai été, et je le suis encore. Je l'ai été pendant des années avant ma rencontre... la rencontre, comme je dis souvent. Avant la rencontre, j'étais vraiment conformiste. Bon, comme je vous disais, j'étais un catho tiède, sans saveur, certes très instruit des affaires de l'Église, mais pour autant, est-ce que je mouillais ma chemise pour annoncer Jésus-Christ dans ma manière d'être, par mon style de vie ? Non. Non. Je réponds non. Non. Dans ma famille ? Non. Où on est une famille très déchristianisée comme tant d'autres. Non. Aujourd'hui, je n'ai plus peur avec mes petits-enfants, d'essayer d'avoir un comportement qui les amène à s'interroger sur le pourquoi j'agis de la sorte. C'est une catéchèse, si vous voulez, familiale.
Bon, ça, l'Église domestique.
L'Église domestique. Mais ça, j'y suis très, très attaché. Je pense que c'est là que ça commence, l'évangélisation. C'est là que ça commence. C'est pas les grands discours. C'est ça, les petits gestes. Hein. Je disais que j'aimais bien Bernadette pour ça aussi. C'est petites choses. Hein. Alors, les petites choses... c'est la grandeur de la foi.
Au cours du pèlerinage national de l'Assomption, vous êtes invité à faire une conférence, non pas sur le pape François, mais sur Benoît XIV.
Non, pas Benoît, Léon.
Léon.
Vous voyez, il va falloir 14, s'habituer.
Léon XIV, autant
que... Je fais la même erreur. Hein.
Ouais. Donc, oui, pourquoi ? Parce que déjà, vous, évidemment, vous intéressez, vous voulez écrire et apporter votre regard sur les 100 premiers jours.
Alors, je vais encore vous faire une confidence. Je m'étais dit, bon, après François, ça sera mon dernier pas. Voilà, en tant que journaliste, je l'ai dit, j'ai envie de faire des romans, d'écrire des romans, j'ai envie de... Voilà. Et puis, bon, voilà, j'ai été sollicité, et puis, bon, c'est plus fort que tout, ça m'intéresse quand même de regarder ce qui va devenir des grands chantiers ouverts par le pape François. Donc l'élection de Léon XIV me semble tout à fait significative et intéressante, et la personnalité aussi qui se découvre peu à peu, avec une prudence qui me rappelle d'ailleurs celle d'un pape que j'aime beaucoup, Montigny, Paul VI. On a beaucoup reproché à Paul VI d'être quelqu'un de très pondéré, de prendre son temps, d'être réfléchi. C'était un fils de Saint-Augustin aussi. Il n'était pas augustinien, mais il aimait beaucoup Saint-Augustin. Et chez Saint-Augustin, vous avez toute cette méthodologie de la prise de temps, hein, du connais-toi toi-même avant de faire quoi que ce soit, réfléchis. Enfin, et on retrouve cela chez... Robert Prévost, devenu Léon XIV, cette capacité à ne pas répondre du tac au tac aux sollicitations, de ne pas être pris dans le vertige de l'activisme, et de dire je prends mon temps, je prendrai les décisions en leur temps et en leur heure, et j'avance à mon pas. Alors ça nous change, c'est vrai, du pape François, qui était beaucoup plus impulsif, qui avait un tempérament, c'était un latino-américain. Alors celui-ci aussi. Mais c'est un Américain naturalisé péruvien, c'est un missionnaire. Et ça c'est beau aussi, d'avoir un pape missionnaire à la tête de l'Église aujourd'hui. Il a beaucoup de choses à nous apprendre pour être nous-mêmes des missionnaires dans nos sociétés et d'adopter un style, justement, qui est le style de la patience, de la persévérance, et je dirais de trouver les mots persuasifs et les gestes persuasifs pour donner envie. Le désir. Chez saint Augustin, vous avez cette notion de désir. Donner à l'autre le désir de croire. Eh bien, est-ce que nous donnons aux autres le désir de croire? J'attends beaucoup du pape Léon, qui est un augustinien chevronné, si je puis dire. J'attends beaucoup qu'il nous aide à cela, à ressusciter le désir de croire.
Mais en observant ces 100 premiers jours, diriez-vous que déjà vous voyez les marques très claires de ce qu'il sera?
Voilà. Oui, non, oui.
Sur les 100 suivants et les 100 d'après.
Oui. Je ne veux pas me laisser enfermer dans les 100 jours, parce que je pense que c'est oui. Une expertise comptable un peu. Bon, voilà, c'est un jour, 100 jours. Et puis, comme je vous dis, on a un pape qui ne cherche pas à faire de la. À mousser les choses, si vous voulez. On sent que c'est quelqu'un de beaucoup plus modeste, beaucoup plus. Il ne fait pas du spectaculaire. Moi, ça me plaît plutôt, hein, ça. Ça me plaît plutôt parce que justement, dans le monde du spectacle, c'est bon d'avoir quelqu'un qui, tout en étant sur le devant de la scène, se montre, pondéré. Voilà. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est le premier discours qu'il a fait devant les cardinaux. Ça a été une allégeance au Concile Vatican II. Et comme moi, j'ai rarement entendu un pape le faire de manière aussi appuyée. Et de demander, il a demandé aussi aux cardinaux qui venaient de les lire, de faire allégeance eux aussi aux intuitions du Concile Vatican II. C'était le 10 mai, sa première intervention devant les cardinaux. Il demande de faire allégeance aux intuitions du Concile. Pour moi, ça a été quelque chose d'assez saisissant. Je n'ai pas le souvenir. Tous les papes hein, qui se sont succédés depuis Jean XXIII ont été conciliaires. Aucun n'a remis en question le Concile Vatican II. Aucun. Mais là, j'ai senti chez cet homme qui n'avait que 10 ans à la fin du Concile. Hein. Moi, j'en avais 9, puisque j'ai un an de moins que lui. Donc, on est de la même génération. Ça m'a fait chaud au cœur de l'entendre dire « Moi, je suis un petit-fils du Concile, d'une certaine manière. » Et de demander aux cardinaux de réaffirmer profondément leur attachement aux grandes orientations du Concile. Donc, ce soir, tout à l'heure, je dirai cela à nos amis, que c'est sans doute ce qui m'a le plus marqué. C'est pas ce qui a le plus marqué les observateurs, semble-t-il, mais moi, ça m'a marqué, et j'ai relu le discours, et je lirai tout à l'heure l'extrait du discours. C'est très fort, c'est très très fort, hein, de demander, de refaire allégeance. Allégeance, c'est pas rien.
Oui.
De renouveler
le
sa fidélité.
Oui.
Le mot est très fort. Hein.
Oui.
L'allégeance au Moyen-Âge, on sait ce que c'était.
Oui.
Hein. Et j'ai trouvé que là, il y avait un engagement très ferme du pape Léon XIV. Et je n'oublie pas, il ne faut pas oublier que le 8 décembre prochain, il y aura le 60e anniversaire de la clôture du Concile. Mais ce n'est pas une clôture. Paul VI avait conçu la cérémonie de clôture du Concile Vatican II comme un envoi en mission de tous les baptisés. Il avait envoyé des messages à tous les corps socio-professionnels du monde, les savants, les intellectuels, tous les métiers, les ouvriers, les chefs d'entreprise. Le Concile s'adressait au monde. Et donc, j'attends beaucoup de ce qui va se passer le 8 décembre prochain, et sans doute que le pape Léon nous dira quelque chose là-dessus. Comment, aujourd'hui, nous sommes à nouveau envoyé en mission dans le souffle de Vatican II. Ben, c'est pas rien. C'est le pape du 60e anniversaire de Vatican II.
Merci, je vous remercie Michel Cole pour cette
et moi aussi, Mathias,
pour
de
ce témoignage.
Accueilli.
On a vécu un bon moment avec vous.
Ben, moi aussi.
Et j'en suis sûr, ceux qui nous voient et qui nous...
Présence à Aspect 94.1
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
L'Afghanistan, durement éprouvé par un tremblement de terre ces dernières heures, une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter, c'est la province de Jalal.